près de 300 millions hackés via Kelp et toute la DeFi qui est en train de trembler avec des ramifications très importantes du côté de AAV. C'est parti pour cette émission du lundi 20 avril 2026. Que s'est-il réellement passé du côté de la finance décentralisée et du protocole Kelp sur ces dernières 48-72 heures? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de décrypter ensemble aujourd'hui avec 292 millions qui ont été exploits, c'est-à-dire en français tout simplement hackés, puisque le mot est le même, piraté en bon français si on fait la traduction au littéral. Et vous allez voir que les implications que cela comporte peuvent être bien plus importantes que ce à quoi on pensait à l'origine, tout en étant moins peut-être ardu que ce que nous le mettent en avant les réseaux sociaux, et notamment ceux qui se satisfont systématiquement un petit peu en mode doomiste du fait que certains protocoles se retrouvent dans la panade. Et avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce piratage qui, pour le coup, va marquer l'industrie pour cette année 2026, mais pas que, rappelons-le que pour le moment, on a de plus en plus de participants à cette course à l'intelligence artificielle, et notamment on l'a vu récemment avec Claude Mythos, qu'ils de leur côté ont peur un petit peu de mettre en production ou que ça tombe entre les mauvaises mains, puisque c'est une intelligence artificielle qui pourrait révéler bon nombre de failles. Et bizarrement, depuis cette annonce, il y a eu pas mal de piratages ou de choses à nouveau qui sont venues impacter directement le marché crypto. Et comme le disait Elon Musk, ça a été repris ici par Kalshi, on a Grok 5 qui arrive et qui pourrait tout simplement être une AGI, c'est-à-dire la fameuse intelligence artificielle qui réfléchit par elle-même, qui est auto-améliorante de façon constante et qui derrière, c'est un petit peu comme ouvrir la boîte de Pandore ou la caverne d'Ali Baba, eh bien on ne sait pas trop ce qu'il va en ressortir, puisque un petit peu comme dans le clip à l'époque de Morpheus et Neo au tout début du film de Matrix, quand il lui dit voilà, dans les années 2000, nous nous sommes tous félicités de la magnificence de la venue de l'IA, et ensuite eh bien, elle a suivi son propre chemin, et la suite on la connaît dans le fameux film Matrix. Donc plus que jamais aujourd'hui, il va être important de notre côté de faire attention à l'hygiène numérique, mais surtout à l'hygiène de comment on utilise et on sécurise ces crypto-monnaies. Et c'est pour ça que la plupart du temps, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde et même si c'est une discussion qui est un petit peu houleuse au sein des crypto-bros, il n'y a pas grand chose à aujourd'hui qui nécessite, en tout cas du côté européen de la force pour les occidentaux et les personnes qui n'ont pas des problématiques soit de vie privée, soit des problématiques étatiques ou de dictateurs, notamment dans certains pays, voilà, du côté africain ou d'autres pays, hein, puisqu'il n'y a pas que l'Afrique. Il y a toutes les problématiques aussi du côté de la Turquie qui ont beaucoup utilisé l'USDT sur le réseau Tron, TRX, justement, pour pallier à la dévaluation constante de leur monnaie. Pareil du côté de l'Amérique latine. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques comme ça qui nécessitent et qui justifient quelque part le fait d'être en self-custody et d'être détenteur de sa propre monnaie. Aujourd'hui, d'un point de vue européen et d'un point de vue des pays riches, entre guillemets, etc., est-ce qu'il ne vaut pas mieux juste détenir un ETF dans un compte-titres ou peu importe dans un broker, ou même, comme le disait là aussi, ça fait pas du tout consensus bien entendu, et notamment auprès des Bitcoin maximalistes, les détenir sur un Binance ou je ne sais quoi. Voilà, à partir du moment où vous utilisez votre ledger ou vous utilisez un non-custodial wallet, c'est la finalité de ce pourquoi a été créé Bitcoin. Donc c'est clair que on ne peut que vous pousser à utiliser la façon intrinsèque dont ça a été fait à l'origine. Et d'un autre côté, c'est la responsabilité qui vous en incombe derrière, de vous sécuriser, de ne pas vous faire attaquer, que ça soit en ligne ou physiquement désormais, et etc., etc. De ne pas cliquer sur un mauvais site, de ne pas cliquer sur un mauvais lien, de ne pas faire un mauvais airdrop, de ne pas avoir un logiciel genre jeu vidéo qui va derrière scanner tout votre ordinateur et tout vous pirater. Donc c'est vraiment aujourd'hui très très compliqué de sécuriser tout ça de façon pérenne, et d'autant plus qu'on va affronter des mastodontes d'intelligence artificielle logiciels qui vont trouver la moindre faille, les zero day, etc. sur les systèmes d'exploitation. Donc inutile de vous dire que ça devient quand même assez complexe pour nous, petits utilisateurs particuliers. On a AV qui a vu 6 milliards sortir par rapport au protocole, puisqu'il y a eu un petit peu un mouvement de peur suite donc à ce hack qui ne concerne pas directement AAV, c'était Kelp qui s'est fait tirer donc 292 millions de dollars en RSETH, l'équivalent de ce qu'on pourrait voir du côté de Lido avec le STETH. En gros, vous déposez un Ether et on vous donne en collatéral un RSETH que vous pouvez déposer à votre guise, générer du rendement, faire de la boucle du côté de la DeFi, et c'est très certainement ce qu'il y a derrière conduit à ce mini cataclysme entre guillemets du côté de la DeFi. Ceci étant dit, AAV et notamment sur cette V3, puisque c'est pas la V4 récente qui est impactée, a joué son rôle tel qu'il devait le faire, et notamment au niveau de Umbrella qui va prendre en charge à peu près 50 millions des 292 millions qui ont été malheureusement à risque via Kelp. Et derrière, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus dans le détail comment tout ceci s'est déroulé, puisque je pense que d'un point de vue vulgaire, c'est ce qui vous intéresse le plus. À partir du moment donc où vous recevez vos STETH ou RSETH, vous avez la possibilité donc de faire à peu près ce que vous voulez avec. Et la problématique du côté de la finance décentralisée, c'est que souvent les yeux sont plus gros que le ventre et ça a conduit à des cascades de liquidation assez folles derrière. Toujours est-il, l'attaquant, selon le poste du bon vieux hacheur, a trouvé une faille dans le mécanisme de mint, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites votre fameux échange d'un Ether contre un RSETH, qui est le fameux token de collatéral que vous offre le protocole et la plateforme Kelp. Ensuite, donc, ils ont eu la possibilité d'en imprimer des grandes quantités à partir de rien, sans fournir de véritables Ether en staking en collatéral, donc comme il le dit, de l'argent sorti du néant. Ils ont déposé ces RSETH artificiels sur AAVV3, ils ont emprunté contre de vrais Ether et de vrais stablecoins, et comme ça, ils ont réussi à drainer pas loin de 300 millions. Quand AAV a voulu liquider les positions, le collatéral, bien entendu, ne valait rien et il se retrouve avec ce qu'on appelle de la mauvaise dette, bad debt en anglais. Donc, c'est des emprunts qui sont non couverts. Et c'est là que ça devient un vrai problème par rapport aux pertes qui finalement sont mutualisées entre tous les utilisateurs. Puisque certes, il y a le safety module et le fameux Umbrella pour la V3, mais là, on est sur un ratio où on a à peu près 50 millions qui sont couverts et on a 290 millions de pertes. Donc on dépasse allègrement ce montant. C'est pour ça que aussi à la hâte, tout le monde a retiré sa liquidité, tant que ça soit en Ether, en WETH, en STWETH. À chaque fois, en plus, c'est des A tokens, puisque du moment que vous déposez sur AAV, c'est A quelque chose. C'est un peu comme le RSETH quand vous faites sur Kelp. Quand vous déposez, par exemple, un STETH sur AAV, vous allez obtenir quelque chose du type ASTETH. Donc c'est encore une couche supplémentaire. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui aussi, c'est le bon moment pour vous rappeler que à partir du moment où vous interagissez avec la DeFi, ça représente très largement une couche de risque supplémentaire, c'est clair et net, au-delà du protocole, etc., qui à ce jour, du côté de AAV, ne s'est jamais fait hacker, on touche du bois, bien entendu, et vu tout ce qui est en cours avec ces fameux Claude Mythos et consorts, on ne sait pas à quel moment, justement, on va avoir des grands protocoles qu'on pensait inviolables qui vont se faire sauter. Donc évidemment, ça a créé un mouvement de panique du côté à la fois des termes mais des stablecoins, puisque la liquidité a été quasi retirée du côté de l'USDC et de l'USDT, ce qui fait que pour ceux qui l'ont laissé, aujourd'hui, il y a des API autour de 15%. Ça ne va pas durer, bien entendu, le temps que tout ça se résolve. Mais voilà, le token AAV dans la foulée, on a pâti puisqu'on a reculé de 20-25%. On était à 115$, on est revenu à 85-90. Donc vraiment, ça a été une bougie qui a été assez monumentale. Et la problématique également face à tout ça, c'est que on peut avoir derrière une contagion multiprotocolaire. Donc c'est un risque qui, comme ils l'appellent dans les banques traditionnelles, est systémique. Donc aujourd'hui, est-ce que la DeFi n'a pas suffisamment de garde-fous justement pour ne pas permettre ce genre de choses? Là, apparemment, la racine de tout venait également de Layer 0 sur lequel il s'appuie, et pour l'instant, on n'a pas eu de communication de ce côté-là. Et AAV a communiqué hier soir, mais de façon très sporadique, très solennelle, et voilà, on n'apprend pas grand chose. Donc il faudra encore quelques jours pour finir de décortiquer tout ce qu'il s'est passé. La bonne nouvelle peut-être pour jour, ce matin en tout cas, c'est hier soir, la Ethereum Foundation elle-même qui a réagi en déposant près de 50 millions en Ether pur et dur sur AAV pour essayer là aussi d'éponger un petit peu, ce qui ferait que, eh bien, peut-être on aurait moins à risque quelque part du côté de AAV que ce qu'on le pensait, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de près de 300 millions, mais peut-être que du côté de AAV, ça n'est pas 300 millions pleins, on serait peut-être plutôt autour d'une centaine de millions. Donc entre le Safety Module et Umbrella qui couvrait plus ou moins 50 et là la Ethereum Foundation qui couvre plus ou moins 50, peut-être que dans le meilleur des cas, et c'est peut-être ce que disait aussi un peu Mark Zeller sur un parcours fléché en n'en disant pas trop, puisque je pense que dans ces moments-là, en dire trop est l'ennemi du bien quelque part. Il faut attendre que les choses arrivent en bonne et due forme et surtout que AAV en tant que tel, Kelp et Layer 0 communiquent de leur côté. Voilà, c'est peut-être moins catastrophique que ce qu'on l'a pensé et ça va peut-être être un rappel brutal sans d'énormes conséquences à la fin du côté des utilisateurs. Mais pour l'instant, en tout cas, le problème pour le court terme, c'est que les réseaux sont gelés pour empêcher, bien entendu, que tout ceci se reproduise sur le court terme, le temps de trouver les solutions adéquates. Et on se retrouve avec des gens, bien entendu, qui n'ont pas pu retirer parfois leurs Ethers ou qui pensent les avoir complètement perdus. Donc on croise les doigts, bien entendu, pour que la perte à la fin n'impacte pas juste quelques utilisateurs qui auraient tout perdu. Beaucoup pensent que ça serait mieux de mutualiser sur l'ensemble et d'avoir comme ça quelques pourcents qui partent sur, on va dire, l'ensemble des utilisateurs du protocole quelque part, même si c'est injuste. Tandis que d'autres, eh bien, défendront leur paroisse et diront, eh bien, moi j'ai pas utilisé cette blockchain en particulier, cet actif en particulier, donc je ne veux pas du tout être impacté. Peut-être que ça va passer par différents votes de DAO, en tout cas pour l'instant on en est là et je vous tiendrai bien entendu informé tout au cours de cette semaine. L'analyse technique, on va très vite, et là pour le coup c'est le cas de le dire puisque c'est lundi, il ne s'est pas passé plus au cours du week-end, si ce n'est que vous avez dû voir le petit rebond du côté de l'US Oil, UK Oil, comme on l'a vu samedi, c'est la variable à surveiller pour le court et moyen terme, c'est ce qui fera et défera le statut boursier du moment, et on avait eu ce feu de paille avec vendredi une clôture du côté de la bourse des États-Unis qui était très largement dans le vert en ATH pour le S&P 500, 7126 points. Est-ce que ça va durer sur ce lundi? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, le S1, le futur, est à moins 0,56. Donc, on va voir comment ça se passe du côté de Hormuz, puisque, en effet, ironiquement, comme le disait une personne en commentaire samedi, entre le moment de la vidéo le samedi matin et le samedi soir, on avait de nouveau potentiellement une clôture ou des blocages de bateaux, etc. du côté d'Hormuz. Donc, ça devient très, très difficile en ce moment de spéculer sereinement, si je puis dire. Le gold continue sa petite route autour de la moyenne mobile 20, 4788. Le crypto total est de retour à 2500. On n'a pas réussi à franchir la moyenne mobile 20 qui se trouvait à 2600. Le RSI aussi, la zone dure pour l'instant des 42 ne passe pas pour le crypto total en hebdomadaire. Ça se retranscrit par un BTC qui s'est empégué autour de 78 000 $ et qui est de retour sous les 75 000 statu quo, tandis que Ether a touché la moyenne mobile 200 par dessous à 2450. Il s'est fait repousser, on est sous les 2300 $ ce matin. Les actions américaines, ça n'a pas changé au cours du week-end puisque tout est fermé, donc on passe rapidement. Les actions françaises, au moment où je tourne cette émission, le marché n'est pas encore réouvert. Du côté des altcoins, toute la DeFi s'est pris un méga shoot, bien entendu. Pendle a reculé de la semaine dernière 1,50 à 1,03 $. AAV, mèche complètement dégueulasse, on était presque à 120 $ en train d'essayer de s'extirper. On est de retour autour de 90, donc là pour le coup, ça a été un mauvais, très mauvais timing pour AAV et pour son token quelque part. Injective qui rebondit également pour le court terme, peut-être un début de quelque chose, mais très très compliqué aussi. Et c'est le cas de bon nombre d'altcoins malheureusement, avec peut-être voilà Hyperliquid aussi qui s'est fait repousser de 45-46 vers les 40 $ et qui petit à petit au niveau des oscillateurs est en train de faiblir un petit peu. Donc est-ce que malgré ce feu de paille et ce faux départ très certainement de fin de printemps ou de mi-printemps juste avant l'été, on va avoir quelque chose d'un peu plus sérieux sur les marchés? En tout cas, j'espère vivement que ce qu'on a pu observer du côté du S&P 500 n'était pas une sortie juste de liquidité pour permettre à tout le monde de sortir à bon compte ici avant d'avoir quelque chose d'un peu plus dégradé derrière. Les oscillateurs avaient fini de purger, etc. On n'a pas eu la véritable grande purge que beaucoup attendaient. Mais à partir du moment où on n'a pas une résolution pleine et durable du côté de Hormuz, ça va avoir forcément des implications dans les prochains trimestres pour l'économie traditionnelle, qui pour l'instant pense, elle, quand on voit la spéculation débridée du côté de Wall Street, que ça n'aura pas d'impact latent si ça se résout rapidement. Mais c'est un scénario qui, factuellement, quand on observe ce qui est en train de se passer, ne se déroule pas si bien. Donc la bourse anticipe un scénario qui n'est pas fondamentalement en train d'arriver. Et voilà, il y a un moment où entre la réalité et la spéculation, on finit toujours par revenir à la gravité qui est justement cette fameuse réalité. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Continuez d'être prudents. On vous tient à jour en temps réel pour AAV, tout ce qui se passe autour de la DeFi. Suivez le compte Fintails-bas du côté de Twitter, ça n'est plus moi qui le dirige, c'est Sacha, mais vous aurez bien entendu toutes les news en temps réel. Et pour ma part, s'il y a besoin de quoi que ce soit au cours de cette semaine, vous savez que vous pouvez compter sur cette vidéo pour essayer petit à petit de comprendre au mieux ce qui se passe tant sur le marché crypto et la finance décentralisée que dans la finance traditionnelle désormais depuis à peu près 2022. Voilà, on essaie de couvrir l'ensemble du spectre pour vous apporter une vision à 360 degrés. Très bon début de semaine et vacances peut-être, j'ai plus les dates en tête pour la France, je m'y intéresse de moins en moins petit à petit malheureusement, mais je crois qu'il y a des vacances en ce moment en France, donc force à vous, courage, bonnes vacances et bon courage surtout pour ceux qui vont au travail. Très bon lundi et à plus tard, ciao ciao.